Bien, aujourd'hui, nous allons voir, parler d'une encyclique très intéressante, une encyclique de Saint Pidis qui s'appelle « Vementer » et qui a été écrite, promulguée le 11 février 1906. Cette lettre de Saint Pidis est adressée au clergé français, au peuple français également, et elle traite de la rupture du concordat et de la séparation de l'Église et de l'État. Et elle commence donc par ces mots que je vous ai cités tout à l'heure, des mots qui révèlent bien la pensée profonde du pape régnant, vehementer. Bon, on traduirait d'une façon assez facile, d'une manière véhémente. Et il est vrai que dans cette encyclique, Saint Pidis va protester. Cette encyclique, pour être bien comprise, doit être replacée dans le contexte historique de l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le pape. Pour vous, il s'adresse donc au clergé, il s'adresse aux Français. Pour vous, la politique religieuse suivie en France dans ces dernières années n'aura été ni une nouveauté, ni une surprise, témoin que vous avez été des coups si nombreux, si redoutables, tour à tour portés par l'autorité publique à la religion. Le ton est donné. Nous allons voir donc dans cette conférence tout d'abord le contexte historique. Et je crois que c'est essentiel pour comprendre véritablement cette encyclique. Ensuite, nous verrons l'encyclique proprement dite et nous verrons dans une troisième partie les suites de cette encyclique, car l'encyclique a eu des suites. Le contexte historique, quel est-il ? En France, on peut dire que la libre pensée, représentée par la maçonnerie, à laquelle étaient affiliés de nombreux membres du Parlement, préparait déjà sous le pontificat de Léon XIII la laïcisation complète de la nation. Son but, recherché, plus ou moins dit, était la rupture du concordat et la séparation de l'Église et de l'État. Et on peut dire, je crois sans erreur, que ce projet avait germé dans l'esprit du gouvernement de la République aussitôt après son instauration, et même, on pourrait dire, avant. On parle, bien sûr, de la Troisième République. Jules Ferry, en 1869, déclare « La France n'aura pas de liberté tant qu'il existera un clergé d'État, une église ou des églises officielles. » En 1878, la question commence à être soulevée, mais l'Église à ce moment-là est trop forte. Et si une loi rendait l'Église libre tout d'un coup, elle trouverait une indépendance, une richesse que lui procureraient ses fidèles. Alors, on va tempérer. Alors, on va essayer de l'attaquer d'une manière sournoise, progressivement, de façon à ne pas effrayer, bien sûr, les bons catholiques. Et c'est pour cela que, à partir de 1882, va se mettre en place toute une série de lois antireligieuses. 1882, 28 mars, la loi qui laïcise l'école primaire publique en omettant dans l'énumération des diverses matières enseignées l'enseignement religieux. 1884, une loi rétablit le divorce, qu'avait supprimé dans le Code civil une loi de 1816. 1884, 14 août, une loi supprime les prières publiques lors de la rentrée du Parlement. 1884, le 29 décembre, une loi frappe le patrimoine des communautés religieuses et associations religieuses pour leur accroissement. 1886, le 30 octobre, une loi exclut les congréganistes de l'enseignement public. 1889, 15 juillet, loi sur l'organisation de l'armée imposant le service militaire aux clercs. 1901, 1er juillet, loi proclamant la liberté d'association, mais excluant du droit commun les congrégations religieuses pour lesquelles elle exige d'abord l'autorisation législative préalable. liberté d'association, sauf pour le clergé. Mars 1903, la Chambre des députés refuse d'examiner les demandes d'autorisation qui sont présentées par 51 congrégations d'hommes, dont 25 congrégations enseignantes et 81 congrégations de femmes, toutes enseignantes. 1904, le 7 juillet, une loi interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature aux membres de congrégations religieuses et ordonne la suppression dans un délai de 10 ans des congrégations exclusivement enseignantes. On pourrait dire que le ton est donné, bien sûr. Et au cours de ces années, quelle est la politique du pape Léon XIII ? Léon XIII, peut-être c'était dans son tempérament, mais Léon XIII montre un esprit de conciliation, d'apaisement. Mais le gouvernement français n'en tient pas compte. Au contraire, petit à petit, les lois se multiplient et elles se font de plus en plus contraignantes contre l'Église. En 1902, arrive au gouvernement le petit père Combes, comme on l'a appelé. Il succède à Waldeck Rousseau, ancien séminariste. Il a, on pourrait dire, une certaine haine, ou une haine certaine, je ne sais, de la religion, en tout cas de l'Église. Et cet homme a été choisi d'ailleurs en raison de sa haine pour la religion. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes de l'époque affirme qu'il faut poursuivre l'œuvre commencée jusqu'au complet, désarmement de l'ennemi. Jusque-là, c'était des lois. En 1900, un procureur de la République, franc-maçon, fait un réquisitoire violent contre les assomptionnistes et demande la dissolution de cette société, je cite, de cette société éminemment dangereuse pour l'ordre social. Là, les évêques réagissent d'une manière forte. 60 évêques protestent, dont l'archevêque de Paris. Réaction du gouvernement qui, par l'ambassadeur auprès du Saint-Siège, proteste contre l'opposition inqualifiable de l'archevêque de Paris envers les pouvoirs publics. Le ton est donné, il va y avoir petit à petit une radicalisation des rapports entre l'Église et l'État. Saint Pédis commence son règne donc à un moment où la persécution ne fait que s'accroître. En octobre 1903, 10 050 écoles religieuses sont dissoutes en attendant les autres. Les étapes de la rupture commencent à poindre. Le pape Saint Pédis est élu le 4 août 1903 et très rapidement, 4 mois après son élection, il écrit une lettre au président de la République de l'époque, Loubet. Une lettre personnelle. Et le pape, dans cette lettre, adjure de considérer le sort de ces milliers de religieux et de religieuses contraints à chercher asile et liberté en des terres étrangères. Il énumère dans cette lettre toutes les infractions faites par le gouvernement à la loi du Concordat, c'est-à-dire le refus d'examiner les demandes d'autorisation présentées par les congrégations religieuses, la suspension arbitraire des traitements ecclésiastiques, la vacance prolongée de nombreux sièges épiscopaux, les attaques injurieuses contre le pape, les menaces contre les membres des congrégations même autorisées, menace d'être privé de la possibilité d'enseigner. Et le pape continue par ces mots. En voyant cette longue série de mesures toujours plus hostiles à la religion, il semblerait qu'on veuille préparer insensiblement le terrain pour en arriver non seulement à séparer complètement l'État avec l'Église, mais, si c'est possible, à enlever à la France cette empreinte de christianisme qui a fait sa gloire dans les siècles passés. Nous ne pouvons que nous persuader que les hommes d'État qui gouvernent actuellement la France nourrissent de tels projets qui entraîneraient fatalement à l'intérieur la plus grande perturbation religieuse et à l'extérieur une diminution du prestige et de l'influence morale de la France. Et le pape d'ajouter que si cela devait arriver, le Saint-Siège, poussé à ses extrémités, plein de confiance en la vitalité de l'Église en France, ne manquerait à aucun de ses devoirs que lui imposerait et sa mission divine et la nature des circonstances, laissant à d'autres la responsabilité des conséquences qui pourraient en dériver. Que va répondre le président Loubet ? Il répond au bout de 3 mois. Dans un langage très mi-figue, mi-raisin, vous pensez. Et il affirme d'abord que personne plus que lui ne souhaite le maintien de la paix religieuse. Mais il se plaint quand même de l'attitude des évêques qui osent se dresser contre les projets de loi. Mais il est respectueux d'une constitution qui confère à son gardien le privilège de l'irresponsabilité. Car, voilà ce qu'il réplique, le président de la République n'y peut rien, tenu à s'enfermer dans son irresponsabilité constitutionnelle en ce qui concerne les mesures gouvernementales et à s'abstenir de tout acte personnel. Donc, autrement dit, il est vrai que le président de la République de l'époque ne gouvernait pas, c'était le président du Conseil qui gouvernait. Le président de la République se terre dans son irresponsabilité. Émile Combes commente, non pas cette lettre, mais la situation. La séparation approche, la séparation s'impose, mais la question, c'est avec quel prétexte ? Alors, une série de prétextes va être trouvée tout facilement. Le premier prétexte, c'est la nomination des évêques. D'après le Concordat de 1901, conclu entre Pie VII et Napoléon, ou Napoléon et Pie VII plus exactement, car Pie VII a été un petit peu contraint en l'occurrence. Donc d'après ce concordat, l'Église propose des candidats aux nonces, l'État propose des candidats aux nonces, et le Saint-Siège garde le droit de nomination absolue. La constitution divine de l'Église était maintenue. Et le gouvernement de l'époque va discuter sur les termes latins de la loi. Et il va s'attribuer le droit de nommer lui-même les évêques. Et il refuse l'entente préalable entre les deux pouvoirs, ecclésiastique et celui de l'État. Le pape ne peut l'accepter et Émile Combes maintient les 3 évêques désignés par lui. Il repousse toute nouvelle nomination tant que les premières nominations ne seraient pas acceptées. À l'époque, 8 sièges étaient vacants, donc inoccupés. Dans un effort de conciliation, le pape accepte la moitié des candidats. Premier prétexte. Deuxième prétexte, le voyage de Loubet en Italie et sa visite au roi Victor Emmanuel II, je crois. Donc le roi d'Italie, vous le savez, est le spoliateur des États du Vatican. Et cette visite de Loubet en Italie est préparée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque qui veut multiplier les gestes d'amitié avec l'Italie. Alors, il prépare donc ce voyage du président Loubet en Italie, sans en référer bien sûr au Vatican, et déjà dans la préparation, le cardinal Merry del Val, qui est le secrétaire d'État du pape, proteste d'une manière énergique, ce qui lui vaut d'être taxé de fanatique intolérant. Bien. Mais pour le ministre des Affaires étrangères de l'époque, l'amitié avec l'Italie est plus forte que le concordat, peu importe. Alors, devant cette réaction du secrétaire d'État, il rappelle l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, il le rappelle à Paris. Déjà, l'attention commence à se développer de plus en plus. Vient une autre affaire, c'est l'affaire des évêques de Laval et de Dijon. Deux évêques, Mgr Le Nordez et Mgr Jay, ces deux prélats reçoivent l'ordre du nonce de suspendre les ordinations et de se rendre au Vatican pour s'y justifier de lourdes accusations qui pèsent contre eux. Entre autres, est reproché à l'évêque de Dijon d'être affilié à une société secrète et d'avoir procédé à des ordinations frappées d'invalidité par restriction mentale. C'est-à-dire, il a fait l'ordination, mais en refusant finalement intellectuellement de faire l'ordination. Ces deux évêques refusent d'obéir et sont soutenus par le gouvernement d'Émile Combes, qui, malgré le concordat, dénie au pape le droit de correspondre directement avec les évêques en ce cas, et prétend que le pape doit recourir aux offices de la direction des cultes, comme si la direction des cultes devait juger d'affaires concernant les sacrements ou autres affaires ecclésiastiques en l'occurrence. Le chargé d'affaires, vous savez, il n'y a plus d'ambassadeur, il n'y a plus d'ambassadeur donc au Vatican, le chargé d'affaires demande l'annulation de la convocation. Le Vatican est patient. Il explique qu'il s'agit simplement de questions sacerdotales et le gouvernement ne répond pas. Alors la secrétaire d'État adresse donc un ultimatum aux évêques pour qu'ils se rendent à Rome sous peine d'être suspendus des fonctions épiscopales. Le nonce demande de sursoir aux ordinations. D'ailleurs, les ordinants ne voulaient pas recevoir le sacerdoce d'un tel prélat. Donc, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. L'évêque de Dijon remet cette note confidentielle et secrète, à Émile Combes. Et là, fou furieux, enfin, imaginons en tout cas, il y a différents échanges de notes entre la secrétaire d'État et Émile Combes qui reprochent l'intransigeance du Vatican. Pensez, quelle intransigeance? C'est simplement le bon droit du Vatican. Les prétextes sont trouvés. La consommation de la rupture va se produire très prochainement. Sous le fallacieux prétexte de détention de documents d'État, et au mépris des conventions diplomatiques, en l'absence du nonce, qui est Mgr Lorenzelli, le gouvernement ordonne le crochetage des archives de l'annonciature et l'expulsion brutale de son substitut. Une violation radicale du droit international de l'annonciature qui avait le statut, bien sûr, d'inimmunité diplomatique. Le 30 juillet 1904, le chargé d'affaires auprès du Saint-Siège, il n'y a plus de nonce, il n'y a plus d'ambassadeur, déclare au cardinal secrétaire d'État que les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le gouvernement français sont rompues. On aurait pu s'en douter. Voilà ce que dit le ministère des Affaires étrangères de l'époque. Le gouvernement de la République avait décidé de mettre fin à des relations officielles qui, par la volonté du Saint-Siège, restent sans objet. Bon. Le cardinal Mérindelval commente « Il sera facile à l'opinion publique, impartiale, et à l'histoire d'attribuer à ces motifs leur juste valeur et de juger à qui incombe vraiment la responsabilité d'une rupture également funeste aux intérêts de l'Église et à ceux de l'État. » À la Chambre des députés, et déclarer ce qui suit. Les atermoiements du Vatican ont rendu inévitable la séparation de l'Église et de l'État. Autrement dit, au niveau du gouvernement français, on rejette la entière responsabilité sur l'intransigeance du Vatican. Et cela sera déclaré mensonge historique par un historien protestant qui s'appelle Ribot, qui déclarera que ce que dit le gouvernement français est un mensonge historique. Autrement dit, le protestant ici vient au secours de la vérité. La loi de séparation est votée le 6 décembre 1905 au Parlement et promulguée le 9 décembre. Contre la loi du Concordat, le gouvernement dénonce d'une manière unilatérale le Concordat. La République renie ses dettes, qui sont dues à la spoliation des biens du clergé pendant la Révolution française. Donc, le Concordat prévoyait que le clergé serait payé, etc., serait rémunéré en réparation de la spoliation des biens du clergé. Et en retour, l'Église s'interdisait de porter recours contre les spoliateurs des biens du clergé. Donc la République renie ses dettes, voilà ce que dit cette loi. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Elle permet l'expulsion manu militari des religieux et des religieuses. Il y a l'inventaire des églises. Les agents de la force publique et l'armée sont autorisés à fracturer les portes, à ouvrir les tabernacles. Et de fait, 60 000 portes seront ouvertes par la force publique, par l'armée. Des croyants, enfin des fidèles, des catholiques montent la garde, on assiste à des scènes pénibles, des missions d'officiers, des fidèles sont envoyés en prison, etc., etc. Pour déguiser ces agissements, la loi proposait la création d'associations cultuelles qui avaient pour but de recueillir le patrimoine des établissements supprimés et qui avaient pour but aussi d'entretenir les ministres du culte. Mais ces associations seraient dirigées par des laïcs. Cette association cultuelle est rejetée par le cardinal de Paris comme une manœuvre et un encouragement au schisme. Et peu à peu, cet avis est partagé par le cardinal Méridelval et par le pape. Voilà ce que déclare le pape. La loi de Dieu et elle seule importe. Nous avons mission de la défendre. Au fond, il ne s'agit que d'une chose très simple. L'Église a-t-elle été créée, oui ou non, par Jésus-Christ ? Oui. Dès lors, il n'est rien qui puisse nous faire abandonner sa constitution, ses droits, sa hiérarchie, sa liberté. Quelle est donc la réaction du pape ? On commence à la voir maintenant. Voilà ce que déclare le pape. Nous ne pouvons pas espérer que le cours des attaques contre l'Église prenne bientôt fin. Eh bien, surviennent les événements les plus durs, ils nous trouveront prêts et sans peur. Et de fait, le pape va réagir prêt et sans peur par deux encycliques. À Camille Bélègue, le pape confie « Voici l'heure où les chrétiens de France devront donner au Christ plus de leur temps, de leur peine et de leur amour. La France ne sera pas détachée du Christ. Songez que dans l'histoire, elle n'a jamais, en dépit des efforts, abandonné la véritable Église. Il y a chez vous tant de braves gens. Comment compter pour rien les épreuves déjà souffertes, les sacrifices accomplis, les mérites offerts, tant de martyrs de la foi et de la liberté ? Maître Saint-Père, dit Camille Bélègue, qu'avez-vous fait en apprenant la nouvelle ? J'ai prié, répond le pape. C'est donc dans l'agitation des esprits en pleine persécution, tels des coups de foudre, que vont se succéder deux mémorables encycliques qui vont apporter la réponse décisive du pape à l'œuvre d'extermination perpétrée par le gouvernement français. Et nous allons parler essentiellement aujourd'hui de cette encyclique Vehementer de Saint Pie X. Alors j'en ai fini avec la première partie et nous allons voir maintenant cette encyclique du pape, l'encyclique Vehementer. Vous avez compris donc quelles sont plus exactement les circonstances historiques qui ont amené le pape à porter condamnation de cette loi de séparation du 11 décembre 1905. Voilà ce que dit le pape dans cette encyclique au départ. Nous souvenons de notre charge apostolique et conscients de l'impérieux devoir qui nous incombe de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés de l'Église, en vertu de l'autorité suprême que Dieu nous a conférée, nous, pour les motifs exposés ci-dessus, nous réprouvons et condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État, comme gravement injurieuse envers Dieu, qu'elle renie officiellement quand elle pose en principe que la République ne reconnaît aucune religion. Nous la réprouvons et condamnons comme violant gravement le droit naturel, le droit des gens et la fidélité publique due au traité. Nous la condamnons comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits, à sa liberté, aux droits multiples que l'Église a acquis devant la nation française en vertu du Concordat. Nous la réprouvons et condamnons comme offensante pour la dignité du siège apostolique, pour notre personne, pour l'épiscopat, pour le clergé et pour tous les catholiques. En conséquence, nous protestons solennellement et de toute notre force contre le vote et la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléguée contre les droits imprescriptibles et immuables de l'Église pour les infirmer. La loi de séparation de l'Église et de l'État est donc une thèse absolument fausse, nous dit le pape, une thèse qui est très pernicieuse. Alors nous allons un petit peu expliquer cette condamnation à l'aide de cette encyclique. C'est tout d'abord, nous dit le pape, une loi qui est injurieuse contre Dieu et qui va contre l'ordre établi. Injurieuse contre Dieu, car la créature, qu'est l'homme, doit se soumettre à son créateur, tout simplement. Et la créature, qu'est l'homme, vit en société. Autrement dit, nous dit le pape, le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l'existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public, social, pour l'honorer. Après cette injure envers Dieu, il y a aussi dans la loi de séparation de l'Église et de l'État une négation de l'ordre surnaturel. Cette loi limite ainsi l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique, qui est sa fin prochaine, certes, mais qui n'est pas la fin ultime que nous avons. La société ne s'occupera plus de la fin dernière, qui est la béatitude éternelle. Pourtant, le bien commun public doit être subordonné au bien commun ultime, qui est la fin éternelle des citoyens. Voilà ce que nous dit le pape. Ce n'est pas la situation exacte, hein, mais c'est ce que veut dire le pape dans cette encyclique. Le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle au pouvoir spirituel de l'Église. Certes, leurs finalités ne sont pas les mêmes entre l'État et l'Église, mais ils doivent marcher de concert dans la même direction. Car la finalité que donne l'Église, qu'a l'Église, est ultime par rapport à la finalité de l'État. Cette loi était également, nous dit le pape, contre l'ordre établi par Dieu dans le monde, un ordre qui exige une harmonieuse concorde entre ces deux sociétés, civiles et religieuses, car elles ont les mêmes sujets, ces deux sociétés. Elles exercent pourtant leur autorité dans leur domaine propre, mais il y a des matières mixtes. Et en ces matières mixtes, eh bien, il va finalement de soi que l'État et l'Église doivent coopérer ensemble. Sinon, eh bien la société civile ne pourra prospérer ni durer longtemps lorsque elle ne fait pas de place à la religion. Et là, le pape, de citer son prédécesseur Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei, qui traite des rapports entre l'Église et l'État. Il faut, nous dit Léon XIII, que cite Saint Pie X, il faut qu'une union intervienne, union que l'on peut comparer à celle qui réunit dans l'homme l'âme et le corps. Les sociétés humaines ne peuvent pas, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était étrangère ou comme si, eh bien, elle ne pût leur servir en rien. Quant à l'Église, qui a Dieu lui-même pour auteur, l'exclure de la vie active, de la nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est commettre une grande et pernicieuse erreur. Le pape, donc, peu à peu, dans cette encyclique, explique pourquoi cette loi de séparation ne va pas. Il a donc commencé à expliquer, eh bien, que cette loi est une injure contre Dieu et contre l'ordre établi par Dieu. Nous l'avons vu. Maintenant, il va passer à la deuxième partie de sa réprobation, de sa condamnation. C'est une loi qui bafoue le droit naturel, le droit des gens, c'est-à-dire le droit on dirait maintenant le droit international, le droit des gens et la fidélité à la parole donnée. Effectivement, le concordat est un contrat bilatéral qui engageait deux parties, l'État, l'Église. Il était réglé par le jus gentium, le droit des gens, le droit des peuples. Il ne pouvait donc être annulé par le fait d'une seule partie. Ce contrat, l'Église, nous dit le pape, l'a fidèlement observé. Il n'en est pas de même pour l'État français. Or, nous dit le pape, aujourd'hui, l'État abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu'il avait signé. Il transgresse ainsi la foi jurée. C'est donc un outrage grave au Saint-Siège, qui est un État indépendant. Il bafoue, il viole le droit des gens, le droit international. C'est une injure grande qui va se mesurer de la manière dont il a été abrogé unilatéralement. Il n'y a pas eu de notification préalable. Les chefs de la nation catholique, qui est la France, ont agi au mépris de l'excellence, de la dignité du siège apostolique, du chef de l'Église, etc. Ils veulent que l'Église cède pour que le chef de l'Église, qui s'appelle le pape, n'est pas son pouvoir qui s'étende aux âmes partout en France. Mais surtout, nous dit le pape, si cette loi a bafoué le droit naturel, si cette loi, et ce qui est grave bien sûr, est une injure grave envers Dieu et envers l'ordre établi par Dieu, cette loi est contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits et à sa liberté. Qu'a donc voulu le Christ ? Effectivement, il faut partir de ce qu'a voulu le Christ. La constitution divine de l'Église, c'est ce que le Christ a voulu en fondant l'Église. Alors l'Église, nous dit Saint Pie X, c'est le corps mystique du Christ. Un corps qui est régi par des pasteurs, par des docteurs. Société d'hommes, dès lors, au sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont plein et parfait pouvoir pour gouverner, pour enseigner et pour juger. Et ce sont le pape et les évêques. Il en résulte que cette société est par essence une société inégale, c'est-à-dire une société comportant deux catégories de personnes, les pasteurs et les troupeaux. Ceux qui occupent un rang dans leurs différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Donc, deux parties, la hiérarchie et les fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral, seul réside le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les hommes vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n'a pas d'autre devoir que de se laisser conduire en troupeau docile et de suivre ses pasteurs. Alors, le pape a bien expliqué l'état de la question. Il y a d'un côté les chefs de l'Église, il y a de côté les autres qui doivent suivre et qui doivent finalement écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit passer par ces pasteurs que notre Seigneur lui-même a institués comme cela. Alors, que dit la loi de séparation ? L'Église devient en France soumise au pouvoir civil. Elle attribue effectivement l'administration et la tutelle de biens du culte public, non pas au corps hiérarchique institué par le Christ, mais à une association de personnes laïques qui est dotée de la personnalité juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Autrement dit, tous les biens seront gérés par cette association dirigée par des laïcs, et tout ce qui touche le culte religieux, dans ses rapports avec les lois civiles, devra passer par cette association cultuelle, dirigée par des laïcs, ce qui va contre la loi divine de l'Église. Et effectivement, la loi en elle-même ne laisse aucune liberté, aucune indépendance à l'Église. Je vais vous lire donc un passage de cette constatation que fait Saint Pie X. Contrairement au principe indiqué ci-dessus, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la loi de séparation attribue l'administration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchique institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques. À cette association, elle impose une forme, une personnalité juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à cette association que reviendra l'usage des temples et des édifices sacrés. C'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques, meubles et immeubles, c'est elle qui disposera, quoique d'une manière temporaire seulement, des évêchés, des presbytères, des séminaires. C'est elle enfin qui administrera les biens, réglera les quêtes et recevra les aumônes et legs destinés au culte religieux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu, nous dit le pape. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, d'autre part, on a bien soin de déclarer que dans tous les différends qui pourront naître relativement à leurs biens, seul le Conseil d'État sera compétent. Ces associations cultuelles elles-mêmes seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, n'aura plus sur elles aucun pouvoir. Cette loi, donc, va contre la liberté de l'Église, contre le droit de propriété même. C'est une spoliation du droit de propriété, tout simplement. Elle va contre la justice, et on va le voir. Et le pape, développe tous ces points, encore une fois. En effet, les pasteurs ne pourront plus exercer la plénitude de leur autorité, non seulement sur les fidèles, mais même sur la gestion courante. Bien sûr, ce n'est pas essentiel, les bâtiments, mais ça permet l'exercice libre du culte. La juridiction suprême de ces associations est soumise au Conseil d'État, nous l'avons vu, nous l'avons cité. Et cela, diffère des prescriptions du droit commun de l'époque. On proclame la liberté du culte, certes, mais l'exercice est restreint par une foultitude d'exceptions. Il y a une entrave à la prédication de la foi, de la morale catholique. Le régime pénal est sévère. Et véritablement d'exception contre les clercs. Finalement, il y a différentes prescription dans cette loi qui fait obstacle à l'influence bienfaisante de l'Église sur le peuple, son action devient paralysée. Que ce soit vis-à-vis des ordres religieux, enseignants pour la plupart, on supprime ses ressources, et ce sont les moyens de son existence pour remplir sa mission. Vous voyez, toutes ces choses qui sont dans la loi et qui vont contre la liberté de l'Église. Il y a la violation du droit de propriété, cela va contre la justice, car elle dépouille l'Église d'une partie de son patrimoine. Comment cela? Eh bien, tout simplement, la loi prévoit la suppression, l'annulation de toutes les fondations pieuses qui sont consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Vous savez, donc, c'était une personne qui donnait tous ses biens, par exemple, pour dire des messes pour telle personne, par exemple, ad perpétuité. Tout cela est supprimé. Les ressources qui proviennent des dons pour l'éducation sont transférées à des établissements laïcs. Attention, c'est contre la volonté, bien sûr, explicite des donateurs. Et tout cela, c'est une violation de la volonté des donateurs. Tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au concordat deviennent propriété de l'État, des départements, des communes, avec usage indéfini, gratuit, qui est concédé aux associations cultuelles, mais avec beaucoup de restrictions. Il y a la suppression du budget des cultes. Les cultuels ne sont pas subventionnés par l'État. Et cela, c'est encore une fois contre un engagement du concordat qui assurait aux membres du clergé un traitement pour leur entretien et celui du culte religieux. Et cela à perpétuité. Ce n'était pas simplement pour 10 ans, pour 20 ans, pour 100 ans, à perpétuité. Il y a un dédommagement partiel de la spoliation des biens pendant la Révolution. Cette subvention donc pour le clergé, le dédommagement partiel de la spoliation des biens pendant la Révolution. L'Église, de son côté, à ce moment-là, ne chercherait pas bagarre contre les possesseurs de ces biens spoliés. Donc on voit que cette loi est funeste. Funeste pour l'Église, certes, mais aussi, nous dit le pape, funeste pour le pays. Alors, Saint Pie X condamne, nous l'avons cité tout à l'heure. Il préfère une Église pauvre, mais une Église libre. C'est pour cela qu'il s'écrit « Non possumus », « Nous ne pouvons pas ». Dans cette encyclique, Saint Pie X prévient que dans quelques temps, il publiera des instructions pratiques, car la réaction à la séparation de l'Église de l'État a été rapide. Il faut maintenant donner des décisions pratiques. Il les donnera un petit peu plus tard. Ce refus des associations cultuelles fait que l'Église en France devient un occupant sans titre juridique. Y a-t-il un espoir de solution? Alors, nous allons passer maintenant à cette troisième partie, de cet exposé, les suites de l'encyclique Veim Inter. Et cela, bien sûr, est tout à fait cohérent avec notre encyclique, puisque Saint Pie X lui-même admet et affirme qu'il y aura des suites. Devant cet état de fait, et la pression du gouvernement, certains pensent à une réconciliation possible. Même le gouvernement, devant la fermeté du pape, apporte quelques modifications possibles à la loi. Le Conseil d'État ferait un règlement, qui serait un commentaire de la loi de séparation, dans lequel serait sauvegardée dans une certaine mesure l'autorité hiérarchique. Et là, le gouvernement propose une constitution d'association légale et en même temps canonique, c'est-à-dire conforme aux droits de l'Église. Saint Pie X, qui ne sortait pas de la campagne pour rien, discerne le piège. Il est prêt à tout refuser, car il sait que la France est capable d'héroïsme. Pour lui, cette jurisprudence du Conseil d'État sera facile à modifier par la suite. Et ce qu'il veut, ce n'est pas simplement une jurisprudence qui permettra une application plus ou moins douteuse de la loi, mais ce qu'il veut, c'est la modification de la loi elle-même. Mais pour autant, quand même, Saint Pie X est prudent. Avant de porter son jugement définitif, il consulte les évêques en France qui sont réunis en assemblée plénière à Paris. Et là, 74 évêques contre 2 évêques refusent l'association cultuelle. Autre question qui se pose, alors, peut-on accepter une association conforme aux droits de l'Église ? Et là, les avis sont quand même beaucoup plus partagés. 45 évêques sont pour accepter, 27 évêques sont contre. La majorité, donc, va pour l'accord d'association conforme aux droits de l'Église. La réponse du pape se fait dans l'encyclique qui avait été annoncée, dans l'encyclique Vehementer, une encyclique qui a pour nom Gravissimo Officii, du 10 août 1906. En effet, Saint Pie X juge autrement, car il sait et il voit que les garanties données par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Certes, on voit même Briand essaye de négocier, maintenant Combes n'est plus au pouvoir, Briand essaye de négocier, mais ce qu'il propose, ou ce que eh bien, d'autres proposent, n'est pas satisfaisant entièrement pour le pape. Alors, l'encyclique Gravissimo Officii du 10 août 1906 condamne, même contre l'avis des évêques, les associations cultuelles comme schismatiques et les associations légales, ou les associations conformes, même qui seraient conformes aux droits canoniques. Il préfère une église pauvre, mais une église libre. Pour lui, encore une fois, une modification est possible, celle de la loi elle-même. Il sait, et l'histoire le montrera par la suite, qu'il sera accusé d'avoir choisi la rupture. Mais les faits, nous dit-il, parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas moi, ce sont eux. Et il développe cela dans son encyclique. Il demande la fermeté qui sera la condition de la victoire. Et il demande également la concorde entre tous les évêques et entre tous les catholiques de France. Je me permets de vous citer quelques extraits, tellement les paroles du pape sont très profondes et très poignantes. Nous avons examiné avec le plus grand soin si les articles de la dite loi nous laisseraient quelques moyens d'organiser la vie religieuse en France de façon à mettre hors d'atteinte les principes sacrés sur lesquels repose la Sainte Église. À cette fin, il nous a paru bon de prendre également l'avis de l'épiscopat. Je passe. C'est pourquoi, relativement aux associations cultuelles telles que la loi les impose, nous décrétons qu'elles ne peuvent absolument pas être formées sans violer les droits sacrés qui tiennent à la vie elle-même de l'Église. Mettons donc de côté ces associations, donc celles qui sont strictement schismatiques, que la conscience de notre devoir nous défend d'approuver, il pourrait paraître opportun d'examiner s'il est licite d'essayer à leur place quelque autre genre d'association à la fois légale et canonique, et préserver ainsi les catholiques de France des graves complications qui les menacent. À coup sûr, rien ne nous préoccupe, rien ne nous tient dans l'angoisse autant que ces éventualités, celles de la pauvreté, celles de la persécution. Et plût au ciel que nous eussions quelque faible espérance de pouvoir, sans heurter les droits de Dieu, faire cet essai et délivrer ainsi nos fils bien-aimés de la crainte de tant, de la crainte de tant et de si grandes épreuves. Mais comme cet espoir nous fait défaut, la loi restant telle qu'elle, c'était simplement des modifications mineures, nous déclarons qu'il n'est point permis d'essayer cet autre genre d'association tant qu'on ne constatera pas d'une façon certaine et légale que la divine constitution de l'Église, les droits immuables du pontife romain et des évêques, comme leur autorité sur les biens nécessaires à l'Église, particulièrement sur les édifices sacrés, seront irrévocablement dans les dites associations en pleine sécurité. Vouloir le contraire, nous ne le pouvons pas sans trahir la sainteté de notre charge, sans amener la perte de l'Église de France. Et nous savons bien qu'il y aura des récriminations des ennemis de l'Église. Il n'est point difficile de le prévoir. Une autre accusation contre laquelle le pape s'oppose et répond, c'était l'accusation spéciale contre l'Église d'avoir été ailleurs qu'en France, plus accommodante dans un cas semblable. Effectivement, il y a eu aussi des modifications en Allemagne, me semble-t-il, où le pape a accepté une association, on pourrait dire, de ce type, diraient les adversaires du pape. Mais voici ce que dit le pape. Vous devez bien expliquer que l'Église en a agi de la sorte parce que toutes différentes étaient les situations et parce que surtout les divines attributions de la hiérarchie étaient dans une certaine mesure sauvegardées. Si un État quelconque s'est séparé de l'Église en laissant à celle-ci la ressource de la liberté commune à tous et la libre disposition de ses biens, il a sans doute et à plus d'un titre agit injustement, mais on ne saurait pourtant dire qu'il a fait à l'Église une situation entièrement intolérable. Autrement dit, la situation en France n'a rien à voir avec les autres situations de ses voisins en Allemagne ou ailleurs, où eh bien, l'Église laissait sa pleine liberté, ou l'État laissait sa pleine liberté à l'Église. Car en France, les fabricateurs, nous dit le pape, de cette loi injuste, ont voulu en faire une loi non de séparation, mais d'oppression. Et là, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Alors, que faire pour les catholiques, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est point par la violence, mais par la fermeté qu'ils arriveront en s'enfermant dans leur bon droit comme dans une citadelle, à briser l'obstination de leurs ennemis. Voilà. La fermeté sera source, elle sera source, eh bien, de bien des enjeux et de bien, finalement, des victoires pour les catholiques. Soyez fermes et vous vaincrez, dit le pape. Maintenant, les catholiques, l'épiscopat, a le verdict du pape. Ils doivent s'y conformer de plein cœur. Et quels qu'aient été jusqu'à présent, durant la discussion, les avis des uns et des autres, donc le pape, là, pense à la discussion des évêques, que nul ne se permette, nous les en conjurant tous, de blesser qui que ce soit, sous prétexte que sa manière de voir était la meilleure. Ce que peuvent faire l'entente des volontés et l'union des forces, qu'ils apprennent de leurs adversaires, qui sont tous unis contre l'Église, entre guillemets. Et de même que ceux-ci ont pu imposer à la nation le stigmate de cette loi criminelle, ainsi les nôtres, par leur entente, pourront l'effacer et le faire disparaître. Le pape a parlé, maintenant également il va agir. Il va agir, ou plutôt il a déjà agi. En effet, après l'encyclique Vehementer, pour montrer son affection particulière, paternelle, envers la France, il a consacré lui-même 14 évêques français après une nomination directe par lui, sans en référer au gouvernement. On pourrait dire, là, c'est la réaction du pape contre la séparation de l'Église et de l'État. Et il consacre donc ces évêques le dernier dimanche de février 1906, donc avant cette encyclique, dont je viens de vous parler, mais après l'encyclique Vehementer. Le pape veut la pompe exceptionnelle pour montrer donc son affection pour la France. Et dans l'allocution au consistoire devant les élus, donc les 14 élus qui vont être sacrés quelques jours après, le pape déclare cela. Les rares et éternels mérites de la France devant la religion, ne seront pas abattus par l'audace et la malice de quelques-uns. Il est à espérer, au contraire, que des jours meilleurs viendront, plus rayonnants et plus illustres. En les attendant, nous exhortons instamment nos chers fils à ne pas perdre courage. Quelle que soit la gravité et la dureté de l'épreuve, qu'ils soient vigilants, qu'ils persévèrent dans la foi. qu'ils œuvrent virilement sans oublier le cri de leur ancêtre « Dieu aime les francs ». Ils ne cesseront de trouver à leur côté le siège apostolique. Et le pape pouvait dire, et il le dit autre part, « Je voudrais voir toutes mes affaires aller comme les affaires religieuses de la France. Je sais bien qu'il y en a qui se préoccupent des biens de l'Église, moi je me préoccupe du bien de l'Église. » Le pape va encore intervenir une autre fois dans une encyclique en 1907, le 5 janvier 1907. Car suite à la réaction du pape de l'encyclique Veem Inter et Gravissimo Officii, l'État passe à l'action. Le 17 décembre 1906, le vieux cardinal archevêque de Paris, le cardinal Richard, est contraint de quitter l'archevêché de Paris. Le 2 janvier 1907, devant la fermeté de l'Église de France qui refuse les associations cultuelles, il y a confiscation des biens immobiliers, puisque les catholiques n'ont pas organisé d'associations cultuelles. Ce qui est prévu par la loi de séparation s'applique et prend effet. Le 2 janvier 1907. Trois jours après, le 5 janvier 1907, le pape publie sa troisième encyclique de protestation contre cette sécularisation de l'Église en France. Et cette encyclique a pour titre « Une fois encore ». Oui, une fois encore, le pape est obligé de parler. Il réfute deux sophismes. Non, l'Église ne souhaite pas la persécution, car c'est une injustice. Non, l'Église n'a point abandonné les biens ecclésiastiques, et le gouvernement accuse l'Église d'avoir abandonné, puisqu'il n'a pas fait d'association cultuelle. Non, l'Église n'a point abandonné les biens ecclésiastiques, biens du culte, biens des pauvres, biens des trépassés, mais on lui a pris. Et la vérité vraie n'est autre que celle-ci. Perfidement mise en demeure de choisir entre la ruine matérielle et une atteinte consentie à sa constitution qui est d'origine divine, elle a refusé, au prix même de la pauvreté, de laisser toucher en elle à l'œuvre de Dieu. Le pape rappelait que toutes les ruses des ennemis de France, de l'Église, n'avait pu séparer d'avec le pape les évêques de France, toujours fidèles, et pour lui c'était une joie immense. Car effectivement, les évêques sont restés fidèles au pape. Et même si certains avaient, avant l'encyclique Gravissimo Officii, émis des opinions différentes de celles que prendra le pape, tous suivront. Et nous le verrons tout à l'heure. Mais auparavant, maintenant que j'ai fait ce petit résumé de cette encyclique, une fois encore, lisons quelques extraits de cette encyclique. Une fois encore, les graves événements qui se précipitent en votre noble pays. Oui, le pape toujours emploie des adjectifs très élogieux pour la France. Nous amène à adresser la parole à l'Église de France pour la soutenir dans ses épreuves et pour la consoler dans sa douleur. Ces souffrances, vénérables frères et bien-aimés fils, ont un écho douloureux dans toute l'Église catholique en ce moment. Et nous les ressentons d'une manière vive encore. À ces tristesses cruelles, le Maître a mêlé, il est vrai, une consolation on ne peut plus précieuse à notre cœur. Elle nous est venue de votre inébranlablement attachement à l'Église, de votre fidélité indéfectible à ce siège apostolique et de l'union forte et profonde qui règne parmi vous. Bel éloge pour les évêques de France. Et de cette fidélité et de cette union, nous en étions sûrs d'avance, car nous connaissions trop la noblesse et la générosité du cœur français. Nous connaissions trop la noblesse et la générosité du cœur français pour avoir à craindre qu'en plein champ de bataille, la désunion puisse glisser dans vos rangs. Nous n'en éprouvons pas moins une joie immense au spectacle magnifique que vous donnez actuellement en louant hautement devant l'Église tout entière, nous en bénissons du fond du cœur le Père de miséricorde, auteur de tous les biens. Et le pape continue en disant « Priez, car eh bien, on a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel, parce que derrière le surnaturel, Dieu se trouve, et qu'on veut rayer du cœur et de l'esprit de l'homme, Dieu. » Le pape prévient « Cette lutte, sera acharnée sans répit de la part de ceux qui la mènent. Des épreuves viendront, etc. » Mais le gage de cette victoire sera votre union, union entre vous d'abord, union avec ce siège apostolique ensuite. Ils ont choisi leur objectif, en premier lieu, nous séparer de nous et de la chair de pierre, puis semer la division parmi vous. Et depuis ce moment, ils n'ont pas changé de tactique. Ils vont maintenant jeter le discrédit sur nos actes en méconnaissant et parfois même en calomniant nos intentions pour que la désunion pervienne entre vous. Non, les raisons de la condamnation, Saint Pie X dans cette encyclique les redonne. La loi les a organisées de telle sorte que ses dispositions à ce sujet vont directement à l'encontre de droits qui, découlant de sa constitution, sont essentiels à l'Église, notamment en ce qui concerne la hiérarchie ecclésiastique, base inviolable donnée à son œuvre par le divin maître lui-même. De plus, la loi confère à ses associations des attributions qui sont de l'exclusive compétence de l'autorité ecclésiastique, soit en ce qui concerne l'exercice du culte, soit en ce qui concerne la possession et l'administration des biens. Enfin, non seulement ces associations cultuelles sont soustraites à la juridiction ecclésiastique, mais elles sont rendues justiciables de l'autorité civile. Voilà pourquoi nous avons été menés dans nos précédentes encycliques à condamner ces associations, malgré les sacrifices matériels que cette condamnation comportait. Bon, et le pape continue, répète les mêmes arguments, etc., etc. Le pape, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, a véritablement fait un éloge magnifique des évêques français. Et les évêques français, 10 jours après, se réunissent en assemblée plénière du 15 au 19 janvier. Et là, ils rédigent une adresse au pape qui leur a demandé obéissance et pauvreté. Voilà ce qu'il déclare, adhésion entière et convaincue au jugement porté par sa sainteté sur la législation en matière religieuse qui a commencé à la loi de 1905 et qui vient de se continuer par la loi du 2 janvier 1907. Le cardinal de Paris, je crois, charge Camille Bélègue de porter ce pli, entre autres, c'est un extrait que je vous ai cité, ce pli au pape. Et donc ce Camille Bélègue apporte ce pli au pape et raconte un peu la réaction du pape. Le pape est dans son bureau, il voyait d'ailleurs, le pape avait, Saint Pie X, une statue de Sainte Jeanne d'Arc dans son bureau. Le pape, nous dit-il, ouvre le pli que je lui ai remis et commence à lire. Je suis le mouvement de ses lèvres et l'émotion au visage. Il donne des marques d'assentiment et de plaisir. Ses yeux même brillent de larmes et à plusieurs reprises, et surtout à la fin, il murmure d'une voix profonde « Bello, bellissimo », c'est-à-dire « Oh, que c'est beau, que c'est très beau », cette réaction des évêques de France. Tous les évêques sont restés derrière le pape. On pourrait dire que le temps d'un gallicanisme théorique ou pratique a vécu avec cette loi de séparation de l'Église et de l'État qui a uni tous les évêques sous la bannière pontificale. On peut dire qu'en gage de fidélité également, de la même manière que Saint Pie X a consacré lui-même 14 évêques français, le pape va béatifier Sainte Jeanne d'Arc en avril 1909. Et cela est certainement à mettre en considération au moment de ces tristes événements qui arrivent en France. Le pape, dans une lettre apostolique, dans la lettre apostolique du 11 avril 1909, qui a pour titre Virginis et qui est la lettre apostolique de béatification de Sainte Jeanne d'Arc, déclare cela. Mais ce n'est que dans les temps présents que fut agitée devant la Sacrée Congrégation des Rites la béatification de Jeanne d'Arc. Ce retard, effectivement, Sainte Jeanne d'Arc était morte depuis très longtemps, ce retard était providentiel. Aujourd'hui, en effet, où l'univers catholique voit avec tristesse des malheurs si grands et si nombreux, où tant d'ennemis du nom de chrétien se font sur les ruines des institutions civiles et religieuses, les héros d'un mensonger amour de la patrie, il nous plaît de célébrer les glorieux exemples de l'héroïque Vierge, afin qu'ils se souviennent, nos ennemis, qu'agir et souffrir généreusement est le propre du chrétien. 11 avril 1909. Pendant la cérémonie de béatification, le pape, après avoir salué le corps diplomatique, les cardinaux, monte sur la sedia. Voilà, donc, vous savez, cette grande chaise qui était portée. Et il s'avance au milieu des bras qui se lèvent, des mouchoirs qui s'ajoutent, des mouchoirs qui s'agitent, toujours bénissant, toujours souriant. Et soudain, parvenu au milieu de la nef, un jeune homme se détache du groupe orléanais qui était amené par Monseigneur Touchet. Et il s'approche de Pidis, lui présente le drapeau tricolore orné de l'image de Sainte Jeanne d'Arc. Le pape saisit la soie des deux mains, la serre sur ses lèvres et la baise. Et nous dit le chroniqueur qui rapporte cela, il y eut un tonnerre d'applaudissements. Maintenant, nous pourrions nous poser cette question en guise de conclusion. Qui a gagné, Saint Pidis ou l'État français? Est-ce la fermeté du pape ou l'intransigeance du gouvernement? Alors, bien sûr, on pourrait citer Saint Pidis, qui annonce la victoire, certainement. Mais nous pourrions, et nous allons aussi citer, des membres du gouvernement ou des gouvernements qui se sont succédés. Clémenceau, par exemple, déclare cela, « Nous avions tout prévu, sauf ce qui est arrivé, le refus des cultuels par Pidis. » Brillant, on ne refuse pas 40 milliards, ou 40 millions, je ne sais pas exactement, 40 millions ou 40 milliards par an destinés au culte. Et si Saint Pidis l'a refusé. Et Brillant s'adressait là, le 23 novembre 1905, au Sénat. Émile Combes reconnut lui-même que spirituellement agissant en tant que gardien de la religion, Pidis avait fait preuve d'une étroite logique en refusant les cultuels. Brillant encore, au moment de la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, à une conversation avec l'abbé Ferdinand Renaud, qui avait rédigé les statuts des associations diocésaines. Et donc, il s'entretient de Saint-Pidis avec l'ancien président du Conseil. Et tout d'un coup, Brillant s'écria, « Le pape, il a été merveilleux, le pape. Je ne l'ai pas toujours bien compris. Il m'a fallu du recul, que tout cela se décante. Mais tout de même, je l'ai tout de suite soupçonné. » C'est le seul qui avait vu clair que deux fois, à la tribune de la Chambre, quand je devais faire front des deux côtés, à gauche et à droite, Brillant a essayé une conciliation, n'ai-je pas été tenté de leur dire qu'ils étaient tous des pauvres types, qu'il n'y en avait qu'un homme qui voyait clair, un seul qui avait la politique cohérente et qui travaillait pour l'avenir, le pape. Bel éloge. Brillant également, à propos du modernisme, disait à des amis, là encore, Pidis prenait sur nous tous une avance de plus de 50 ans. Et je crois que Brillant ne savait pas si bien dire. Il n'a pas vu les 50 ans, mais Saint Pidis avait vu que le modernisme allait pénétrer dans l'Église. 50 ans après, ou un peu plus après, c'est ce qui arriva. Pour finir et pour conclure, je vous citerai également ce commentaire que je le retrouve. Ce commentaire, ce jugement porté sur Saint Pédis par Émile Ollivier, qui est ancien ministre de Napoléon III, devenu académicien et qui avait bien connu Léon XIII. Et donc cet Émile Ollivier, qui a été reçu en audience pontificale en octobre 1904 par le souverain pontife, en audience privée, en est sorti enthousiasme et il dira de lui cet éloge. J'ai parlé avec lui comme je l'aurais fait avec un vieil ami, qui cependant aurait conservé une majesté royale. Il a été avec moi d'une affabilité enchanteresse. Il est impossible d'approcher Pédis sans éprouver le sentiment de la plus haute sympathie. Il ne possède pas la majesté spectaculaire de Léon XIII, mais il a celle irrésistible du cœur et de la bonté. J'ai surtout été frappé par les qualités supérieures de son intelligence. Cette intelligence de Pédis est faite de clarté, de lumière, de précision. Il sait écouter, comprendre merveilleusement ce que l'on dit. Il va toujours directement au point délicat et décisif de la question qu'il résume en peu de paroles d'une surprenante concision. À mon sens, il possède beaucoup plus que Léon XIII les véritables qualités d'un homme d'État. Il ne s'abandonne point à la rêverie ni aux hypothèses problématiques, mais conserve le sentiment de la réalité immédiate pour juger d'un coup d'œil ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas lui qui aurait pu croire qu'en violentant la pensée des catholiques et en les obligeant à se rallier au gouvernement, on aurait pu conduire la République française à une nouvelle aventure de 1849. Ce qui m'a encore le plus frappé dans cette sorte de fascination opérée par son intelligence, c'est sa bravoure. Il possède la vraie bravoure, douce, calme, dénuée de toute recherche. Il ne criera jamais « non possumus », mais quand il devra le dire, il le dira d'une voix émue. Et quand il l'aura dit, il le maintiendra pour toujours. Si les circonstances devenaient difficiles, attendez-vous de sa part à de grandes choses. Il sera à l'occasion un héros et un saint. Saint Pédis, effectivement, pourra dire « frangar, sed non flectar ». Je serai peut-être brisé, mais je ne fléchirai pas. Et c'est ce qu'il a fait, finalement, vis-à-vis de cette loi de séparation entre l'Église et l'État. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Ça serait peut-être intéressant de savoir comment le vivaient les simples fidèles dans les paroisses, comment se comportaient les curés. Est-ce que les gens étaient conscients de ce...
Oui, plus que conscients. Oui, pourquoi ? Parce que, effectivement, cette loi de séparation s'est manifestée, comme je le disais tout à l'heure, par plus de 60 000 portes d'église qui ont été ouvertes par la force. Alors là, eh bien, il y a eu des réactions multiples. Et, des officiers ont brisé leur épée, ont refusé de servir cette cause, etc. etc. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans la conférence sur le général de Saunis, son supérieur a fait en sorte qu'il ne soit pas obligé de choisir et l'a envoyé faire autre chose pendant que, eh bien, il donnait l'ordre à son régiment d'opérer une spoliation d'église, enfin, un inventaire. Mais d'ailleurs, j'ai lu quelque part que Clémenceau dit « on va quand même pas tuer les gens pour compter des chandeliers ». Vous voyez, donc, il y a eu cette hargne du gouvernement, mais il y a eu aussi beaucoup de discussions sur la manière de faire, etc. Tout le monde était d'accord pour asservir l'Église, mais il y a eu effectivement des débordements qui n'étaient pas toujours prévus, peut-être. C'est vrai. Mais de fait, il y a eu beaucoup de débordements.
Qu'est-ce qu'on a fait contre ces chrétiens? On les a incarcérés.
Certains ont été incarcérés. D'autres ont été, je ne sais pas, maltraités, battus, que sais-je. Enfin, bon, il y a eu des bagarres, certainement.
Et la police, comment elle s'est comportée?
La police, ça dépend lesquels. Là. Il y a eu, donc, exécuté les ordres. Il y a eu des membres de l'armée qui ont refusé, qui ont démissionné. Voilà, qui ont démissionné. Oui. Oui.
Finalement, ce n'était jamais qu'un inventaire. Ça ne change rien à la vie de la paroisse. Et en plus, c'est la commune qui devait payer toutes les réparations de l'église. Ce n'était plus à la charge du clergé.
Oui, mais le problème n'était pas un problème matériel que refusait Saint-Pédis. C'était un problème éminemment spirituel. C'était le problème que même si, je dirais, l'église ou l'État aidait pour la réparation ou que sais-je, il n'en demeurait pas moins que l'Église n'avait plus de pouvoir sur les associations cultuelles et même sur la gestion du culte catholique.
Ce qu'il a dit en disant que ce ne sont pas les biens de l'Église qui m'importent, c'est le bien de l'Église.
Voilà. Donc c'était une loi qui allait contre la constitution de l'Église. La constitution divine de l'Église. Vous voyez ?
Malheureusement, on en arrive un peu là maintenant avec les associations d'évêques.
Ah non, pourquoi ? Parce que actuellement, le président de l'association, c'est de droit l'évêque. Donc on revient. Alors là, je ne connais pas assez la situation, si vous voulez, parce que ces lois sont très, très, très compliquées. Mais on en revient à peu près à ce qui s'était passé en Allemagne et que avait accepté Saint-Pédis. Donc Saint-Pédis a refusé parce que pour la France, c'était quelque chose. Alors d'abord, avec une jurisprudence très ambiguë et une loi assez ambiguë. On ne savait pas du tout où ça allait en venir. Donc les associations culturelles actuellement, qui existent, qui sont le moyen, je dirais, juridique pour les diocèses d'exister, ne sont pas exactement la même chose que ce qui était prévu par la loi de séparation. Attention. L'évêque est président de droit. Donc, bon, c'est peut-être un subterfuge, mais c'est important.
Ah. Ça arrange bien parce que par exemple, nous, en Berlieu,
bon, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Alors, la loi, si vous voulez, actuelle, bon, qui est très compliquée, mais enfin, je vous souhaite très, très en gros. La loi actuelle précise que les édifices catholiques sont attribués, affectés obligatoirement pour le culte catholique. Bien. Maintenant, ça suppose, du côté de l'Église, d'envoyer des ministres du culte pour exercer un culte catholique. Ce qui fait que si dans un écart de temps, je crois que c'est un an, je ne sais plus si c'est moins un an, mais enfin peu importe, ça ne change pas. Dans un certain délai de temps, il n'y a pas de culte dans cette église, le maire peut demander au préfet un décret de désaffectation de l'église pour l'affecter à ce qu'il veut. Ça peut être une association de danse, une association de chasse, une association, ou alors, comme en Berlieu, une association pieuse, etc.
Il y a beaucoup de églises qui ont fait des fermes. C'était des fermes. Des fermes.
Oui, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire.
Elles sont désaffectées. On en a fait des fermes.
Ah oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui.
Il y en a pas mal.
Alors, il est vrai, bon, que le retour du balancier se fait. Actuellement, c'est peut-être un bien que l'Église, enfin, vu, je dirais, ce qui se passe dans l'Église, que l'Église, enfin, que les évêques n'aient pas trop de pouvoir sur les bâtiments. On m'a cité que le diocèse de Paris, actuellement, est en procès, assigné par l'architecte des monuments historiques, parce que pour faire leur nouveau hôtel, type, ce que vous connaissez peut-être, ils ont cassé toutes les dalles qui étaient classées. Alors, l'évêque demande une historique où le ministère a porté l'affaire devant la justice pour demander réparation. Enfin, bon.
En cela, on peut l'approuver.
En cela, je ne suis pas tout à fait contre.
Et vous ne parlez pas de ces lois-là sur
les... Le problème, c'est que l'Église était... La religion catholique était la religion de l'État autrefois. Donc finalement, la question ne s'est pas posée tout de suite. Mais effectivement, peu à peu, c'est ce qui se passe. Et entre nous soit dit, actuellement, vis-à-vis de tous les groupements islamiques, le ministère de l'Intérieur est très embêté, parce qu'ils n'ont pas d'association cultuelle. Donc ils sont incontrôlables. C'est une foultitude d'associations qui fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi et n'importe où. Donc, alors d'autres religions, certainement, je pense que d'autres sont organisées en association culturelle. Mais à l'époque, je ne sais pas si le problème se posait en ces termes, quoi.
Énormément beau.
Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait.
Confondu d'admiration devant la
situation. Surtout que la réaction était très rapide. Vous voyez, par exemple, la loi de séparation du 2 janvier 1907, 3 jours après, une encyclique paraît. Pour le faire, il n'y avait pas de fax à l'époque. Hein. Bon. Alors certes, la chancellerie, enfin les chancelleries et puis la diplomatie vaticane devaient être déjà au courant de ce qui se préparait, ça c'est bien évident. Donc il a pu préparer, mais quand même. Donc la décision a été très très rapide. Et effectivement, ce que disait cet Émile Ollivier est très beau. Il a montré qu'il a des capacités de chef d'État exceptionnelles. Et je crois que tout le pontificat sur d'autres domaines de Saint-Pédic s'exprime un peu en ces termes aussi. Mais spécialement dans ces relations avec la France, hein, qui ont été très, très, très difficiles pour lui. Voilà. Pas de questions. Et j'attarde. J'ai parlé longtemps. Alors la prochaine fois, ce sera, je crois, je ne sais plus, ou d'une interprétation moralement unanime des théologiens. Et deuxième condition que donne ce père, le texte doit avoir un rapport interne et nécessaire avec la foi, et le texte, troisième condition, doit être acceptée par toutes les liturgies ou par la liturgie romaine qui est considérée comme universelle. Et à ce moment-là, eh bien, on peut arriver à un jugement sur l'infaillibilité du texte. Donc, finalement, de dire que la vérité doit être certaine, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir différents degrés de certitude, un degré de certitude plus ou moins grand, et qui nous est donné selon des critères externes ou internes, comme je disais tout à l'heure. N'oublions pas également qu'il y a un grand critère qu'il faut respecter et qu'il faut avoir en vue, c'est l'importance de la continuité dans le temps, non seulement aujourd'hui, mais depuis toujours, et on peut citer le canon de Saint-Vincent de Lérins, ne peut être né du dépôt de la révélation, finalement, que ce qui a été cru partout, toujours et en tout lieu. Bon. Donc le problème, finalement, de l'infaillibilité n'est pas si clair que ça dans les lois liturgiques. Maintenant, bon, je pourrais développer, mais retenons bien que si, dans le magistère ordinaire, extraordinaire du pape, il y a des critères qui sont bien clairs, encore plus dans le magistère ordinaire, il doit y en avoir, qu'ils soient directs ou indirects. Et toutes les encycliques des papes, de quelque pape que ce soit, depuis que les papes font des encycliques, ne sont pas forcément infaillibles. Peut être infaillible dans certaines conditions, mais ne sont pas forcément infaillibles. Il faut qu'il y ait des critères pour cela. Bon, c'est pas le sujet, mais je dis ça là en passant. Si maintenant, donc, nous faisons une petite application sur eh bien, les nouveaux rites, bon, prenons l'exemple de la nouvelle messe, tout simplement, bon, parce que c'est l'exemple le plus frappant, peut-être, effectivement, la nouvelle messe, hein, ou plus exactement, la loi liturgique qu'il a promulguée, n'est pas infaillible. Pourquoi ? Eh bien, parce que le pape ne l'a pas voulu ainsi. Et je peux vous citer, si vous voulez, cet article qui a été écrit par l'abbé Dulac, donc un théologien canoniste, qui eh bien, a étudié justement en son temps et a fait beaucoup de publications, beaucoup d'articles qui ont été à l'époque publiés dans la revue Le Courrier de Rome, qu'il rédigeait lui-même, entre 67 et 70. Il l'a rédigé pratiquement seul. Ensuite, il y a eu quelques personnes qui l'ont aidé. Et donc, il a rédigé plusieurs articles de fond que Mgr Lefebvre estimait beaucoup et qui nous montrent, justement, bon, il n'y a pas que lui qui le dit, hein, d'autres auteurs le disent d'ailleurs, hein, que l'infaillibilité n'est pas de mise dans, loi liturgique. Donc, si l'infaillibilité n'est pas de mise, il peut y avoir des erreurs qu'il se mêle à cette loi liturgique. Je vous cite ce que disait même le pape Paul VI, en commentant plus exactement cette loi. Le rite et les rubriques respectives ne sont pas en eux-mêmes une définition dogmatique. Ils sont susceptibles de qualifications théologiques de valeur variable selon le contexte liturgique auquel ils se réfèrent. Ils sont des gestes et des termes reliés à une action religieuse, vive et vivante, d'un mystère ineffable de la présence divine, laquelle n'est pas toujours réalisée de la même façon. Une action que seule la critique théologique peut analyser et exprimer en formule doctrinale qui soit logiquement satisfaisante. Bon, donc si les rites et les rubriques sont susceptibles de qualifications théologiques de valeur variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soutenir que c'est infaillible, c'est bien évident. Bon, je pourrais développer ce problème, enfin il est déjà 10 heures, donc je vais m'arrêter là. Je ne dis pas cela pour louer la nouvelle messe, c'est bien évident, mais pour montrer que, eh bien justement, on peut... puisque ce n'est pas infaillible, puisqu'il n'y a pas ces caractères de volonté d'imposer une loi universelle et de volonté d'imposer ce qui doit être cru, eh bien, on peut justement se permettre de la rejeter, tout simplement. Parce que, justement, il y a effectivement des erreurs graves dans la nouvelle messe, qui, comme le dit eh bien, le bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci, qui s'éloigne dans le détail, comme dans l'essentiel comme dans le détail, de la doctrine traditionnelle de l'Église sur ce point. Et on a vu sur le rituel du baptême que finalement il en est de même. Bon. Est-ce que vous avez des questions ? Ils n'étaient pas baptisés, ils étaient circoncis.
Pourquoi il n'y avait-il qu'un seul acte ?
Pardon ? Oui, non, c'est sûr, il y avait que... Parce que comment dirais-je, l'homme était considéré comme, je dirais, étant le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc... c'est comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que la religion de l'Ancien Testament est une religion patriarcale. Oui.
Le baptême, Jean-Baptiste baptisait, mais D'où ça sortait ce baptême ?
C'est un baptême de pénitence qui n'est pas un baptême, qui n'est pas le baptême sacrement de baptême.
Ça a toujours existé dans la loi.
Pas exactement.
C'était ancien.
Oui, disons que c'est un baptême qui n'est pas le baptême. Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une manière de regretter ses péchés, de se purifier en attendant notre Seigneur.
Et les gens qui ont été baptisés le même jour que notre Seigneur, ils ont reçu le vrai baptême ?
Non.
C'est un baptême prophétique.
Oui, c'est ça, c'est un baptême, c'est une façon prophétique, oui. Oui, qui annonce le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. On a parlé de cette question, d'ailleurs, la dernière fois, me semble-t-il. Oui, en disant que effectivement le baptême est valide, enfin si le baptême de notre Seigneur est valide dès que notre Seigneur a été baptisé, mais il sera, je dirais, institué, enfin il sera promulgué plus tard après la résurrection de notre Seigneur, après la passion et la résurrection. Oui.
Oui, pour le baptême de sang, pour les saints innocents, vous avez dit que j'en parlerais.
Ah, j'ai dit que j'en parlerai. Oui, le baptême des saints innocents, que dire là-dessus ? Bon, les saints innocents sont au ciel, puisque apparemment on les appelle saints innocents, donc ils sont au ciel, effectivement. Ils n'ont pas été baptisés dans l'eau, pourtant ils sont martyrs. Alors, comment leur volonté a été sanctifiée ? Eh bien, on peut dire... Attention, je prends des pincettes pour le dire, bien sûr, mais on pourrait éventuellement dire que Dieu a illuminé leur intelligence pour qu'ils acceptent, si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce spéciale pour eux, quoi. Non, oui, enfin, oui et non, parce que, attention, susciter un repentir chez quelqu'un qui est adulte, c'est tout à fait dans l'ordre de la nature. Mais chez un bébé, c'est plus difficile.